À la tech. Bienvenue donc dans le patio, le jardin de l'espace Van Gogh, pour cette deuxième partie de journée du forum altermondialiste Les Suds à Arles et Attaque Pays d'Arles. Cette journée a commencé ce matin avec, pour ce qui concerne en tout cas l'Attaque Pays d'Arles, avec la projection de 3000 nuits de Maï Masri. Et cet après-midi, donc, c'est la conférence que va nous faire Dominique Vidal. Cette journée s'inscrit également dans le cadre du 70e anniversaire de la Nakba, 2018, année de la Palestine. Les Suds ont mis la Palestine à l'hommage cette année parce que c'est un autre anniversaire, c'est le 10e anniversaire de la disparition de Mahmoud Darwish. Et vous avez pu donc entendre hier le trio Joubran et 47 Souls au Forge. Dominique Vidal est ici pour présenter son dernier livre, et enfin il a développé la thématique autour de antisionisme égale antisémitisme, point d'interrogation, réponse à Emmanuel Macron, qu'il développera donc maintenant et qu'il pourra répondre à vos questions dans la suite de l'après-midi. Vous trouverez également à la table, juste derrière vous, le livre en question et beaucoup d'autres livres de Dominique Vidal et d'autres livres sur le sujet. Je vous souhaite à tous un bon après-midi.
N'hésitez pas, pour ceux qui veulent connaître nos prochaines thématiques, puisqu'on va encore aborder ce sujet-là sur le Proche-Orient, on a eu deux conférences, celle-là 6 et la troisième, sur la Palestine, notamment le mouvement BDS. On a reçu des gens de Marseille, le mouvement BDS, comment agir en tant que consommateur, tout simplement. Et on a eu une conférence aussi avec rappelle-moi le nom, à Pierre Stamboul, effectivement, donc aussi dans cette thématique-là. Donc si vous voulez recevoir aussi nos mails sur les prochaines conférences sur ce sujet-là, sur le Proche-Orient, éclaircissement avec d'autres auteurs, n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez juste à mettre l'adresse mail. Voilà, bonne conférence, merci.
Bonjour. Ça n'est pas ma première conférence, mais c'est la première en plein air et par cette chaleur, donc on va voir ce qu'on arrive à faire dans ces conditions. J'avais prévu un discours en hommage à Fidel Castro de 3 heures. Je crois que je vais faire plus court que prévu. En fait, on est quasiment à l'anniversaire, ce sera lundi, du discours du président de la République à la commémoration du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, l'an dernier, à Paris. Il avait invité pour la première fois le Premier ministre israélien. Il l'avait appelé « cher Bibi ». Imaginez si l'autre avait répondu « cher Manu ». Et surtout, à la fin d'un discours que personnellement j'avais trouvé très beau, où en gros Macron, en 45 minutes, avait explicité ce que Jacques Chirac, dans son fameux discours de 1995, avait dit d'une phrase sur la responsabilité de la France de Vichy dans la déportation et l'extermination des Juifs de France, et des Tziganes de France, d'ailleurs. Macron l'a rappelé, et il a fait cette précision utile lors de la cérémonie pour le passage de Simone Veil au Panthéon. À la fin de ce beau discours, donc, il y a eu cette phrase qui tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, ça n'avait strictement rien à voir avec le sujet. Il a dit « Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car c'est la forme renouvelée de l'antisémitisme. » Je dois dire que je l'écoutais, je m'attendais absolument à tout sauf à ça, et j'ai été franchement choqué. Choqué d'abord du point de vue historique, et ensuite du point de vue politique. Et c'est au fond les deux volets de ce que je vais vous dire sur l'analyse de cette petite phrase. Il s'agit, c'est clair, d'emblée, il faut le préciser, d'un amalgame entre deux choses qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre. D'une part, l'antisémitisme, qui est un délit aux yeux des lois françaises, comme tous les racismes, ni plus ni moins. Et d'autre part, la critique des idées de Théodore Herzl, qu'on peut approuver, désapprouver, partager, ne pas partager, mais c'est un débat d'idées. Ça n'a rien à voir avec un délit. Donc je vais, si vous voulez, prendre de manière synthétique les deux éléments de cet amalgame que le président de la République est le premier à faire. Même François Hollande, qui, comme vous le savez, avait un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants, c'est ce qu'il avait dit un soir en rencontrant Benjamin Netanyahou, même François Hollande n'avait jamais fait cet amalgame-là. Manuel Valls, oui, mais Manuel Valls a fait tellement d'amalgames qu'on n'est plus à un prêt. On le laisse se débrouiller avec les Catalans. Il semble qu'il ait 5% d'intention de vote à Barcelone, je le précise au passage. Alors, pourquoi c'est une erreur historique ? Ben, d'une manière très simple, dans ce qu'on peut appeler l'histoire de l'antisémitisme, on a des siècles de choses extrêmement graves qui vont de discrimination en expulsion, d'expulsion en massacre, de massacre en pogrom, pour finir par le génocide de la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit bien qu'il y a là un phénomène qui n'est pas du domaine du débat d'idées, mais qui est de l'ordre de la persécution raciale. Et d'ailleurs, je signale que c'est une histoire européenne, beaucoup plus qu'une histoire du monde arabe ou du monde musulman. Je le signale parce que souvent, on a l'impression à entendre tel ou tel que l'antisémitisme viendrait de l'islam. Non, il est d'abord dans l'histoire un antisémitisme créé par les églises chrétiennes au prétexte que les juifs auraient été le peuple déicide, le peuple qui aurait tué le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Ce qui est très particulier par rapport à ce que vous avez certainement entendu, c'est que malgré toute cette histoire d'antisémitisme avec son apogée pendant la Seconde Guerre mondiale, en France, où l'État français a participé directement à la déportation et au massacre des Juifs, je fais encore une parenthèse, 75 000 Juifs français ont été déportés et presque tous assassinés dans les camps de la mort. Il y avait en France, en 1939, 330 000 Juifs français et étrangers. C'est la proportion la plus forte de toute l'Europe de Juifs qui ont échappé à la déportation et au génocide. Et comme ceux qui ont eu une expérience familiale de ce type le savent très bien, personne n'a échappé au génocide par hasard. Si une énorme proportion a échappé, c'est grâce à la solidarité, sous toutes ses formes, qui a été exprimée en France par des policiers qui annonçaient les rafles à l'avance, par des voisins qui cachaient les enfants, par des familles protestantes ou catholiques qui cachaient des juifs. Ma mère a été cachée pendant 3 ans au Chambon-sur-Lignon, dans une famille protestante, et il y en a beaucoup, beaucoup qui ont vécu cette expérience. Le Chambon était une usine à cacher des enfants juifs. Je crois qu'au total, la région du Chambon, de l'Auvergne, donc, du sud de l'Auvergne, a caché 10 000 enfants juifs français. Ça donne une idée de l'importance de cette solidarité. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'entend pas toujours de la part des historiens de l'antisémitisme. Donc, malgré cette histoire tragique, l'antisémitisme, je précise bien comme idéologie, a connu un recul rapide au point de devenir marginal, je dis bien marginal, en France aujourd'hui. Je ne prends qu'un exemple, c'est peut-être le plus évident. En 1946, l'IFOP fait un premier sondage et demande aux Français « Est-ce que les Juifs sont des Français comme les autres ?» 30% des Français disent « oui ». La même question posée il y a quelques semaines par Ipsos Steria à un ensemble de Français, un échantillon, c'est pas grave, je connais tout ça à force, merci beaucoup, un échantillon de Français représentatif, eh bien, est-ce que vous savez combien on a ? 92% des Français, de nos compatriotes, disent « les Juifs sont des Français comme les autres ». Donc voilà qui réduit à néant l'idée que nous serions un peuple antisémite, ad vitam aeternam. Nous l'avons été pendant une période, pour une bonne partie de la population, ça n'est plus vrai aujourd'hui. Deuxième élément, qui n'est pas sans importance, s'il n'y a plus d'antisémitisme idéologique massif, il y a des préjugés qui demeurent. D'après la même enquête Sofres-Steria, à laquelle je me réfère, dans le texte de la conférence, j'ai tous les liens Internet, si vous le voulez, je pourrais donner le texte à nos amis d'Attaque et vous pourrez retrouver là-dessus les références pour aller vérifier ce que je vous ai dit. Presque la moitié des Français professent des préjugés antisémites, du genre « les Juifs sont riches », « les Juifs ont du pouvoir », « les Juifs sont influents dans les médias », etc., etc. La moitié, ce n'est pas rien. Mais je vous pose la question, est-ce qu'un préjugé, c'est la même chose que du racisme ? Il y a beaucoup de préjugés, on ne va pas parler des Arlésiens, mais parlons des Bretons, ou parlons des Corses, ou parlons des Auvergnats, ou des Ch'timis. Est-ce que vous diriez pour autant qu'il y a un racisme anti-Corse, un racisme anti-Auvergnat, un racisme anti-Ch'timis ? Non. C'est grave, il faut le savoir, c'est des éléments qu'il faut combattre, mais ça n'est pas comparable à une idéologie raciste. Troisième élément, extrêmement sensible, parce que les chiffres sont manipulés d'une manière importante, ce sont les violences contre les uns et les autres, pas seulement les Juifs, évidemment, et loin de là, bien sûr. Il y a eu un pic de violence antisémite et raciste au début du siècle, de notre siècle, au moment de la seconde intifada et de sa répression en Palestine, évidemment. Il y avait un lien de toute évidence. Depuis, il n'y a pas eu une année où ces violences n'aient reculé, au point de devenir très mineures aujourd'hui. Je le dis clairement, quand on regarde les chiffres tels qu'ils sont, par exemple en 2017, c'est des chiffres qui tournent autour de 100, 200, 300 violences anti-juives ou violences anti-arabes ou violences anti-musulmanes ou violences anti-roms. Mais c'est des chiffres préoccupants, mais qu'il faut comparer aux centaines d'actes de violence recensés, centaines de milliers d'actes de violence recensés en France chaque année. On ne peut pas isoler les violences racistes des violences en général. Donc on est dans quelque chose qui, là aussi, contredit clairement l'idée d'une explosion d'antisémitisme ou de racisme. Dernier point, et ça n'est pas le moindre, bien sûr, si le nombre d'actes de violence anti-juifs recule de manière continue, presque linéaire, depuis 2002, il y a des actes de plus en plus violents. Et c'est ça qui marque, évidemment, nos compatriotes juifs, mais pas seulement. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, si je mets de côté les attentats téléguidés de l'étranger, je pense à l'attentat de la rue Copernic ou à l'attentat de la rue des Rosiers, évidemment, ce sont 11 citoyens français juifs qui ont été tués en tant que juifs. Il y en a 8 où personne ne peut se permettre de pinailler. Ce sont les victimes de Mera, à Toulouse, et ce sont les victimes de Koulibaly, à l'Hypercacher. Il y en a 3 autres, honnêtement, je suis admiratif de mes confrères journalistes qui ont décidé ce qu'il y avait dans la tête des meurtriers. Je pense à Ilan Halimi, je pense à celle qu'on appelle Sarah Halimi, qui s'appelle Lucie Attal, et je pense évidemment à la pauvre Mireille Knoll. Quand on regarde de près, il y a certainement des motifs antisémites, puisque tous les 3 sont juifs, mais il y a aussi des aspects de crimes crapuleux. Rappelez-vous Fofana, le chef du gang des barbares, qui a enlevé, torturé et assassiné Ilan Halimi Ce qu'ils voulaient, c'était de l'argent. Et comme ils partageaient les préjugés dont j'ai parlé tout à l'heure, ils pensaient que le jeune Ilan Halimi avait forcément de l'argent puisqu'il était juif. Bien qu'il n'ait pas eu d'argent, ni sa famille, ni ses proches, d'ailleurs. Et puis, il y a un troisième élément dont on ne veut pas parler en France. Mes collègues journalistes considèrent ça comme un tabou. On est le seul pays, d'ailleurs, où c'est un tabou. Parce que quand on parle du djihadisme, tout le monde évoque ce troisième élément. C'est la folie. Il y a parmi les tueurs de juifs, comme parmi les tueurs djihadistes, des gens qui sont des gens dérangés mentalement, suivis pour des problèmes psychiatriques de longue date, et dont les actes... Écoutez, on veut nous démontrer que Mireille Knoll a été victime d'un tueur antisémite, mais ce tueur antisémite vivait dans la même maison qu'elle, allait chez elle quasiment tous les jours, lui faisait les courses. Elle a été, malgré son grand âge, au commissariat pour le défendre dans une affaire de mœurs dans laquelle il était impliqué, ou en tout cas soi-disant impliqué. Bref, on ne comprend pas en quoi son acte aurait à voir avec un acte antisémite en tant que tel. Je dis ça parce que c'est malheureusement pas sans doute la dernière fois qu'on aura une espèce de pression de la part de certains, je pense en particulier du Conseil représentatif des institutions juives de France, le CRIF, pour imposer aux juges de décréter le caractère antisémite de tout meurtre à partir du moment où c'est un meurtre de juifs. Mais à ce moment-là, imaginez qu'on fasse la même chose pour les meurtres d'arabes, on aurait de drôles de chiffres, beaucoup plus impressionnants que les 12 ou 11 juifs assassinés depuis quelques années. Tout cela pour dire, et j'en termine avec ce premier volet, que oui, le président de la République a raison, le Premier ministre aussi, et tous ceux qui se sont exprimés, nous n'en avons pas fini avec le racisme et l'antisémitisme, même s'il n'est pas cette espèce d'hydre des temps modernes qu'on nous décrit, ça reste une préoccupation importante qui mérite une véritable mobilisation, qu'il s'agisse, je répète, de l'antisémitisme ou du racisme sous ses différentes formes, y compris le racisme anti-rome, pour le redire clairement. Donc il faut qu'on applique les lois. Il n'était pas normal que pendant des années, un Dieudonné ou un Soral puisse développer des discours, des écrits, des harangues antisémites sans être condamné. Aujourd'hui, ils le sont, tant mieux. Malheureusement, comme ils ont été condamnés, ils ont changé de discours. Ils ne parlent plus des juifs, ils parlent des sionistes. Ils ne parlent plus d'antisémitisme, ils parlent d'antisionisme. Donc ça nous pose à nous, qui nous battons, comme moi, pour le droit de quiconque le souhaite d'être antisioniste sans être accusé d'antisémitisme, ça pose un problème. Et je le dis au passage, je ne le dis pas pour vous, je le dis en général, non seulement il faut être vigilant, mais quiconque s'affirme antisioniste, et c'est son droit, à mon avis, celui-là doit être encore plus vigilant que les autres. Parce que la moindre bavure verbale lui coûte non seulement à lui, mais aussi à la cause qu'il veut défendre souvent, c'est-à-dire la cause palestinienne. Donc, je termine avec l'antisémitisme. Il faut beaucoup de vigilance. Deuxième élément de l'amalgame du président de la République, c'est l'antisionisme. Alors, quelques mots quand même, pour ceux qui ne le sauraient pas, sur ce qu'est le sionisme. Parce que c'est quand même un mot dont tout le monde parle, mais on n'a pas une idée très claire du sujet. Theodor Herzl, qui est un journaliste juif d'origine hongroise, devenu autrichien, il se trouve qu'il arrive à Paris comme représentant de son journal, la Neue Freie Presse, un grand journal libéral autrichien, à Paris. Vient de se produire en Russie, en 1881-1882, une vague de pogroms terrible, avec des dizaines et des dizaines et des dizaines de morts à travers tout l'Empire tsariste. Il arrive à Paris, dans le pays qui a donné l'égalité aux Juifs pour la première fois dans l'histoire, qui a émancipé les Juifs avec la Révolution française, badaboum, l'affaire Dreyfus. Et Theodor Herzl, on ne le sait pas souvent, il a assisté à la dégradation du capitaine Dreyfus dans la cour d'honneur des Invalides. Donc, voyez, il a vu, de ses yeux, vu ce que pouvait signifier une décision antisémite arbitraire. Il n'y a plus besoin aujourd'hui de démontrer que le capitaine Dreyfus n'était pas un traître. Et donc, qu'est-ce que Herzl tire de cette double expérience russe et française? Eh bien, il se dit, premièrement, les Juifs sont inassimilables là où ils vivent. Il se dit donc, comme on ne peut pas assimiler les Juifs là où ils vivent, il faut qu'ils partent dans un autre pays, créer un État juif, à majorité juive, à souveraineté juive. Le sionisme, c'est ça, c'est ni moins ni plus. L'idée que des Juifs inassimilables doivent avoir un pays à eux. Bon, Herzl ne s'occupe pas du fait qu'il y a une population autochtone palestinienne, arabe, dans ce pays-là. C'est le pays de la Bible, donc c'est pour les Juifs. Je ne vous fais pas le détail de l'histoire. Il publie un livre en 1896 qui s'appelle « L'État des Juifs », où il développe ses théories. Et l'année suivante, il réunit le premier congrès sioniste mondial à Bâle, en 1897. À Bâle, parce que les Juifs allemands n'ont pas voulu que ça se tienne en Allemagne, significatif. Et il crée donc le mouvement sioniste. Le mouvement végète pendant 20 ans. Herzl rencontre le Kaiser, le Pape, les ministres du Tsar, etc., etc. Personne n'en veut de son projet. Et puis, il réussit, mais il est mort. C'est son successeur qui conclut le deal, à faire un accord avec les Britanniques. C'est la fameuse déclaration Balfour du 2 novembre 1917, par laquelle les Britanniques appuient le projet de foyer national juif. Pas pour les beaux yeux des Juifs. D'ailleurs, les gens qui signent la déclaration Balfour et le gouvernement, ce sont des antisémites connus comme tels, mais ça leur permet à eux de mettre la main sur la Palestine, qui est décisive pour le contrôle du Proche-Orient et donc de l'Empire britannique au total. Eh bien, peut-être ça va vous surprendre, mais malgré le soutien des Britanniques, jusqu'en 1939, ce projet d'État juif est rejeté par 95% des Juifs. Vous entendez bien, 95% des Juifs. Les Juifs communistes, qui pensent que la révolution socialiste va résoudre le problème juif, bon, peut-être ils étaient un peu optimistes, on le sait. Les Juifs bundistes, c'est-à-dire social-démocrates, si vous voulez, qui pensaient qu'il fallait une autonomie juive, mais dans les pays où vivaient les Juifs, notamment en Russie, en Pologne. Les Juifs orthodoxes, pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y avoir d'État juif tant que le Messie n'est pas arrivé. C'est un blasphème. L'idée même d'un État juif sans le Messie, c'est un blasphème. Et il faudra attendre 1947 pour que Ben-Gourion arrive à faire un accord avec les Juifs religieux. Et ça a été très compliqué. Ça se paye encore pour les citoyens israéliens très lourd aujourd'hui. Parce que, comme disait le rabbin Leibowitz, il y a eu, avec l'accord dit de statu quo, une double prostitution. Les rabbins se sont prostitués à cet État dont ils ne voulaient pas, mais l'État s'est prostitué aux rabbins en acceptant l'ensemble des lois religieuses et en les imposant aux citoyens du jeune État d'Israël. Et ça continue de pire en pire. Donc vous avez une période longue de l'histoire où le sionisme est rejeté par les Juifs. Alors, je vous pose la question que j'ai posé à Emmanuel Macron, est-ce que ces millions et millions de Juifs qui ne voulaient pas du sionisme, ils étaient antisémites? Parce que si on suit sa petite phrase, c'était tous des antisémites. Quels sont les chiffres? Parce qu'il faut quand même avoir les chiffres en tête. Entre 1881, les grands pogroms, et 1924, quand les États-Unis bloquent l'immigration, notamment juive, qui arrivait vers chez eux, 3,5 millions de Juifs quittent l'Europe. Où vont-ils? En Palestine? Presque tous vont aux États-Unis. En Palestine, en 1939, il y a 450 000 Juifs, c'est-à-dire un tiers de la population de la Palestine, c'est-à-dire 2,6% de la population juive mondiale. Voilà, les sionistes, en 1939, représentent au mieux, si on considère que tous sont venus par sionisme, ils représentent au mieux 2,6% des Juifs du monde. Pourquoi j'ai dit « si ils représentent » parce qu'une bonne partie de ces Juifs qui sont venus en Palestine sont venus pour fuir les persécutions nazies. Ils n'ont pas choisi d'être sionistes. Ils ont choisi de quitter l'Allemagne nazie et d'aller au seul endroit où ils ne seraient pas persécutés comme Juifs. Alors, est-ce que ça change après ? Oui, ça change, évidemment, parce qu'il y a le génocide. Et le génocide change complètement à la fois tout le problème des Juifs dans le monde, mais aussi tous les problèmes, malheureusement, du Proche-Orient. Cela dit, quand on y regarde de plus près, c'est plus compliqué qu'on y croit. Il y a trois grandes vagues d'immigration vers Israël, vers la Palestine, ensuite Israël, à partir de 1945. La première vague, c'est celle des survivants du génocide. Mais où vous voulez qu'ils aillent ? Ils ne peuvent pas aller aux États-Unis. Les lois de 1924 le leur interdisent, en gros. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux, parce que chez eux, c'est par exemple en Pologne, où les pogroms continuent. C'est pour ça que M. Kaczynski a fait voter une loi qui interdit de parler de la collaboration polonaise avec les nazis. Je n'ai pas dit la collaboration des Polonais, je dis la collaboration polonaise avec les nazis. Comme si nous, on avait une loi qui interdise de parler de Vichy, de Laval, de la milice, etc. Donc ce que je vais vous dire là, ça tombe sous le coup de la loi. En Pologne, je serai en prison. Eh bien oui, il y a eu des pogroms, des massacres de juifs jusqu'en 1950 en Pologne. Donc les juifs polonais, avec la meilleure volonté du monde, ils ne pouvaient pas retourner chez eux, ils ne pouvaient pas aller aux États-Unis. Où voulez-vous donc qu'ils aillent ? La plupart des juifs survivants, plusieurs centaines de milliers, ont été en Palestine, clandestinement, et ensuite en Israël. Et ça n'était pas un choix sioniste. C'était la seule solution qu'ils avaient s'ils voulaient survivre, normalement. C'est exactement la même chose avec le million de juifs arabes qui va aller vers Israël après la première guerre et jusqu'aux années 60-70. Les uns ont été expulsés par les dirigeants arabes, d'autres, c'est les dirigeants sionistes qui ont été les chercher parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre et de soldats. Et en tout cas, où voulez-vous qu'ils aient été ? Ils étaient juifs et arabes. Qui allait les accueillir ? Nos pays européens ? Troisième vague, les juifs soviétiques. Vous savez que Gorbatchev se met d'accord avec les Israéliens et leur dit « Les juifs peuvent quitter l'Union soviétique s'ils vont en Israël. » 1 million de juifs soviétiques vont aller en Israël. Tous croyaient que c'était une étape pour aller aux États-Unis. Mais Shamir s'était mis d'accord avec Ronald Reagan, le président américain de l'époque, pas de visa pour les juifs soviétiques. Et donc, ils ont été coincés. Et c'est, vous voyez, comme le hasard fait bien les choses, il fallait remplir les colonies en Cisjordanie. Donc, ces juifs soviétiques qui arrivaient étaient, pour une bonne part, exactement la population qu'il fallait pour remplir les colonies. J'arrête là l'histoire, ce serait trop long. Simplement pour vous dire que 70 ans après la création de l'État d'Israël, aujourd'hui, il y a 6,5 millions de juifs en Israël et dans les territoires occupés, sur 16 millions. Donc la majorité des juifs du monde n'a pas fait de choix sioniste. Peut-être qu'ils sont antisémites, si on en croit Macron. Non, la majorité. Non seulement ils sont restés en dehors d'Israël, 70 ans après, hein, ils ont eu le temps d'y réfléchir, mais en plus, ils s'intègrent, contrairement à ce que disait Theodor Herzl, au point que 60% d'entre eux épousent des non-juifs ou des non-juives. Vous me direz, et alors ? Je vous réponds, et alors ? Mais pour les rabbins, non. Pour les rabbins, ça veut dire que un juif marié avec une non-juive, ses enfants ne sont pas juifs. Donc il y a un vrai problème éthique et démographique. Et ça préoccupe beaucoup, quand on lit la presse israélienne, cette question-là les préoccupe beaucoup. C'est pas fini. Les démographes israéliens nous expliquent qu'environ, ils disent, ils exagèrent, ils disent « the million missing », le million qui manque. C'est quoi ? C'est plusieurs centaines de milliers, au bas mot, de citoyens israéliens qui ne vivent plus en Israël. Est-ce qu'ils font du business ? Est-ce qu'ils font des études ? Est-ce qu'ils sont tombés amoureux ? Est-ce que, peu importe, je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont rompu avec Israël ? Moi, j'en connais beaucoup. Mais en tout cas, non seulement il n'y a pas plus de 6,5 millions, mais sur les 6,5 millions, il y en a plusieurs centaines de milliers qui ne sont pas là. ma fille vit à Berlin, il se dit à Berlin, ce n'est pas vérifiable, qu'il y a 100 000 citoyens israéliens à Berlin, dans l'ancienne capitale du Reich. C'est quand même, c'est plus la capitale du Reich, bien sûr, mais je veux dire, quand même, ça a un sens symbolique. Quand des citoyens israéliens choisissent d'aller vivre à Berlin, vous voyez, c'est lourd. Dernier point, et pas le moindre, vous avez aujourd'hui un juif israélien ashkénaze, enfin européen d'origine, sur deux, qui s'est procuré dans les dernières années un passeport de l'Union européenne. Pourquoi faire ? Quand on se procure un deuxième passeport, c'est au moins qu'on se pose une question sur l'avenir du pays dans lequel on vit. Voilà toutes sortes d'arguments pour dire que l'antisionisme n'est pas ni antisémite, ni même irrationnel. Il correspond à une analyse de l'évolution des choses. On peut défendre un autre point de vue, on peut aussi défendre celui-là. Alors, pour terminer, je dirais qu'il faut essayer de comprendre, non pas ce que le président de la République avait dans la tête, parce que ça, c'est très compliqué, et pas que sur ce sujet, apparemment, mais pourquoi cette thématique est devenue une thématique d'intérêt général, alors que quand même, je veux dire, s'il n'y avait pas eu la phrase de Macron, je n'aurais pas fait un livre. Hein. En fait, c'est assez simple à comprendre, à mon avis. Et je pourrais me contenter de quelques chiffres. Ce sont les derniers sondages faits en France, alors ce n'est pas Sophres-Styria, c'est l'IFOP, il y a quelques jours, hein, c'est pas pour certains, quelques semaines pour d'autres. 57% des Français ont une mauvaise image d'Israël. 69% des Français ont une mauvaise image du sionisme. Je ne sais pas ce qu'ils mettent derrière le mot, mais ils disent ça. 71% des Français pensent qu'Israël est responsable de l'absence de négociations avec les Palestiniens. Et dernier sondage publié hier, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est de l'ordre de 58% des Français demandent à Macron de faire des pressions directes sur l'État d'Israël pour changer sa politique. Ben, vous prenez ces chiffres et ça vous explique de quoi nous débattons. Les dirigeants israéliens et leurs amis, leurs alliés, comme vous voulez, peu importe le nom que vous utilisez, français, sont paniqués par la dégradation de l'image d'Israël en France, en Europe, aux États-Unis, y compris parmi les juifs. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là, quand on est juif ou pas juif, israélien ou pas israélien, quand on est d'extrême droite? On manie le bâton. Le bâton, c'est le chantage à l'antisémitisme. Et voilà que, comme par hasard, l'action, la campagne boycott des investissements sanctions devient une campagne antisémite qu'il faut interdire. Manque de peau, ça ne marche pas. Malgré les pressions absolument considérables, je pourrais vous en raconter beaucoup là-dessus, il n'y a toujours pas en France de loi qui interdise le boycott. D'ailleurs, si on avait une, ça se saurait, parce que nous avons été très nombreux à boycotter le régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Aucun d'entre nous n'a été en prison. Il y a une directive qui demande au parquet de poursuivre les boycotteurs. C'est une directive de Madame Alliomari. Vous voyez, celle qui voulait aider le dictateur Ben Ali à réprimer la révolution tunisienne. Vous vous souvenez d'elle ? Donc elle a été là-bas pour aider Ben Ali, puis elle a acheté des maisons avec ses parents. Enfin bon, c'est une femme très recommandable. Je vous la recommande. Eh bien, cette circulaire ministérielle, qui n'a pas valeur de loi, évidemment, il n'y a que 12 parquets sur tous les parquets de France qui l'ont suivi et qui ont fait 12 procès pour des centaines et des centaines d'actions BDS. Et il y en a deux, où il y a eu une condamnation, dont un très connu dans nos milieux, qui est le procès de Colmar, qui est maintenant soumis à la Cour européenne des droits de l'homme. Je ne sais pas ce que la Cour décidera, les pressions à Bruxelles aussi sont des pressions très fortes, mais je sais ce que Mme Mogherini, la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, répète en boucle chaque fois qu'on lui pose une question. Elle dit, pour nous, ce qui importe, je la cite, hein, c'est la liberté d'expression et la liberté d'association. Elle est valable dans tous les pays de l'Union européenne, y compris, c'est ce qu'elle dit, elle, c'est une citation, y compris pour la campagne boycott des investissements sanctions. Donc ce n'est pas du tout impossible que la Cour européenne des droits de l'homme retoque notre Cour de cassation qui s'est mêlée, c'est son droit évidemment, de l'affaire de Colmar. Bref, l'interdiction, la criminalisation de BDS, ça n'a pas marché. Donc on invente un deuxième étage de la fusée, c'est l'interdiction de l'antisionisme. On croit rêver, le président du CRIF, qui s'appelle Francis Khalifa, déjà il y a un problème, Francis Khalifa, président du CRIF, il y a quelque chose qui fonctionne mal, mais vous inquiétez pas, il est bon, hein, c'était le président du Bétard, l'organisation juive étudiante d'extrême droite, pour ne pas dire plus. Donc Khalifa s'est engouffré dans la petite phrase de Macron, d'il y a un an, pour demander l'interdiction de l'antisionisme. Imaginez donc, on est dans la logique d'une pensée démocratique, venant d'un président du Bétard, ce n'est pas étonnant, les communistes vont demander l'interdiction de l'anticommunisme, les gaullistes vont demander l'interdiction de l'antigaullisme, les libéraux vont demander l'interdiction de l'altermondialisme. Vous voyez où on va? C'est la pensée de gens qui sont des totalitaires. Et il n'y a pas d'autre mot. J'évite des mots plus précis à caractère historique, parce que je ne veux pas faire de comparaisons qui n'en sont pas. On n'est pas dans le fascisme, pour être clair. Mais on est quand même dans le totalitarisme. Pourquoi? Parce qu'on crée un délit d'opinion. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas de délit d'opinion. Ça n'a pas toujours été le cas. D'abord sous Vichy, évidemment, mais aussi pendant la guerre d'Algérie. Je dis toujours dans mes conférences que moi, j'étais gamin, évidemment, mais ma maman, elle lisait les journaux. C'était une maman très engagée. Et les journaux qu'elle lisait, il y avait des pages entières qui étaient blanches. Pourquoi des pages blanches? C'est pas qu'ils avaient oublié d'imprimer. Parce que la censure était venue la veille au soir enlever du journal une partie de ce qui ne lui plaisait pas. Et c'était comme ça en France, pour l'Humanité, pour Combat, pour le Libération, qui n'était pas le même Libération à l'époque, etc. Même Le Monde, ça lui est arrivé. Donc on avait la censure. Est-ce que Francis Khalifa et les dirigeants du CRIF veulent rétablir la censure en France? S'ils le veulent, au moins qu'ils le disent. On saura de quoi il s'agit. Donc si vous voulez, vous avez, et je termine, on part d'une question qui est la question du sort de la Palestine, de l'histoire du sionisme, de l'antisémitisme, et on finit dans une menace directe pour les libertés d'expression qui sont les nôtres. Et ça, ça ne peut pas marcher. Quand bien même le président de la République le voudrait, demanderait à son Premier ministre de préparer un projet de loi, que la majorité, La République En Marche, certainement voterait le projet de loi et donc la loi au Parlement, parce qu'elle vote tout ce qu'on lui demande de voter. Quand j'étais gamin, on appelait ça les godillots. C'était les godillots des gaullistes. Là, maintenant, c'est les godillots de La République En Marche. Eh bien, où est-ce qu'on arriverait? On arriverait sur la table du Conseil constitutionnel, qui dirait non. En France, la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les lois européennes, la Cour européenne des droits de l'homme, tout cela interdit de créer un délit d'opinion. À mon avis, et je termine pour de vrai, c'est ça qui explique que le président Emmanuel Macron, qui a une bonne mémoire, normalement, depuis quelques mois, il a oublié sa petite phrase. Ah oui. Il y a eu le dîner du CRIF, vous savez, le tribunal annuel de la République, pour la République, c'est la République qui est en jugement. Eh bien, c'était le 7 mars dernier, le président de la République a condamné, ce qui est son droit d'ailleurs, honnêtement, le boycott. Il a dit pas de boycott en France pour des pays étrangers, quels qu'ils soient. Mais la petite phrase sur l'antisionisme, elle a disparu. Et Édouard Philippe, qui normalement répète tout ce que dit le président de la République, avec beaucoup, beaucoup de sérieux, il avait d'ailleurs répété la petite phrase du Veldiv, mais là, il a présenté le 19 mars son plan contre le racisme et l'antisémitisme. C'était l'occasion ou jamais d'en parler. Oubli. Trou de mémoire. Alzheimer précoce. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Ce serait prétentieux de me prendre pour Madame Soleil, je ne le suis pas, mais je constate que cette petite phrase du Veldiv, sur laquelle j'ai fait mon livre, eh bien, elle a, semble-t-il, disparu dans les tiroirs du président, de son premier ministre, etc. Pas dans les tiroirs du CRIF, qui continue tous les jours, ou presque, à exiger la loi, etc. Mais, bon, je dirais, est-ce que la lutte paye ? Ben, on va pouvoir bientôt, je pense, enlever le point d'interrogation. La lutte paye, mais il faudra peut-être encore un petit effort de sang-froid et de détermination pour en finir avec cette tentative lamentable qui n'est pas à l'honneur du président de la République. Je vous remercie beaucoup.